Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidza à la présentation de cette édition du mercredi 22 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. En Libye, la présidentielle impossible ce vendredi. L'autorité électorale propose de reporter d'un mois cette échéance. L'ancien président de transition en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara, est rentré à Conakry. Il se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice pour faire la lumière sur les événements ayant précédé sa chute. La police du Congo-Brazzaville autorise l'opposant Paulin Makaya à quitter le territoire national pour des soins médicaux. Naufrage à Madagascar, le bilan passe à 64 morts, une quinzaine de disparus. Des dizaines de migrants portés disparus au large de la Grèce après le naufrage de leur canot et une opération de sauvetage. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La haute commission électorale libyenne a confirmé le report de l'élection présidentielle prévue ce vendredi. L'autorité électorale propose de tenir le scrutin dans un mois. Le point avec Abdulrahman Dia.
Moins de 48 heures avant les élections, une commission du Parlement chargée du suivi du scrutin a conclu à l'impossibilité de le tenir à la date prévue, fixée pourtant il y a plus d'un an. Ces conclusions ont été rendues publiques alors qu'une annonce du report du scrutin était attendue depuis plusieurs jours sur fond de désaccords entre camps rivaux. Lundi, 17 candidats avaient déjà admis qu'un report du scrutin était quasi certain, mais aucune autorité ne s'était jusque-là prononcée en ce sens. Mardi, des miliciens armés se sont déployés à Tripoli, faisant craindre une reprise des violences. L'émissaire américain pour la Libye et ambassadeur à Tripoli a appelé au calme mercredi et à des mesures susceptibles de détendre la situation sécuritaire tendue à Tripoli et ailleurs en Libye. L'élection du 24 décembre devait marquer l'aboutissement d'un processus politique parrainé par l'ONU pour clore un chapitre de division et d'instabilité depuis la chute de Muammar Kadhafi il y a 10 ans.
En Guinée, l'ancien chef de la junte qui a pris le pouvoir après le décès de Lansana Conté est rentré au pays après 11 ans d'exil au Burkina Faso. Le capitaine Moussa Dadis Camara a été accueilli à l'aéroport Ahmed Sékou Touré par une grande foule. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est en province de Dakar que l'avion qui transportait l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara s'est posé aux environs de 13 heures sur le tarmac de l'aéroport international à Esté de Conakry.
L'ancien président de la transition de 2008 a été accueilli par une délégation conduite par le directeur général de la police.
Acclamé à sa sortie, Dadis a voulu rassurer ses partisans, mais surtout les victimes du massacre du 28 septembre 2009.
Je voudrais encourager la tenue de ce procès qui serait non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes, mais aussi pour le peuple de Guinée.
Il y a quelques jours, c'est l'ancien ministre de la Défense de Dadis, devenu son successeur, qui est arrivé en Guinée, lui aussi, après plusieurs années d'absence du pays. Sékou Ba Konaté a conduit la transition de 2010, lorsque Dadis Camara avait été blessé à la tête par une balle de son aide de camp. Toumba Diakité soupçonnait alors Dadis Camara de manœuvres visant à lui faire porter les responsabilités du massacre du 28 septembre, un massacre qui a coûté la vie à au moins 150 personnes. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
L'opposant congolais Paulin Makaya a été autorisé par la police du Congo-Brazzaville à quitter le territoire national pour se rendre à Londres afin de bénéficier de soins médicaux. C'est ce qu'affirme son parti politique aujourd'hui. Le point avec Jacques Aristide.
L'affaire dure depuis quelque temps. Il y a environ 2 semaines, la police des frontières avait interdit pour la 3e fois à Paulin Makaya de quitter le Congo-Brazza sans lui notifier les motivations ou raisons de cette interdiction. En novembre dernier, Christine Makaya avait adressé un courrier au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour solliciter la sortie de son époux. Sa santé ne cessait de se détériorer depuis des mois, disait-elle. Très proche de l'ancien premier ministre, ministre Bernard Kolela, Paulin Makaya s'est opposé au référendum de 2015 qui a permis au président Sassou Nguesso de changer la constitution et de briguer un troisième mandat en 2016. Paulin Makaya, 52 ans, qui a également la nationalité britannique, avait été condamné à 2 ans de prison en 2016 pour trouble à l'ordre public pour avoir tenu une manifestation non autorisée l'année précédente. Il avait été libéré en 2018 après avoir purgé sa peine. Denis Sassou Nguesso a depuis été réélu en 2021 pour un 4e mandat et cumule 37 ans à la tête du Congo.
Des dizaines de manifestants protestant à l'appel d'un collectif catholique contre une taxe illégale et contre le choix des membres de la commission électorale ont été dispersés mercredi par la police à Kinshasa, la mairie ayant interdit leur marche. Les manifestants brandissaient des calicots et des banderoles contre la taxe sur le registre des appareils mobiles et contre les membres de la commission électorale nationale indépendante. Eram est un vol, pouvait-on lire sur une banderole. Le naufrage d'un navire au large du nord-est de Madagascar lundi a fait au moins 64 morts, dont 5 enfants. Un bilan actualisé après la découverte de 25 nouveaux corps. Le point avec John Linden.
Le navire avait embarqué quelques 130 passagers et 50 d'entre eux ont pu être sauvés selon un bilan actualisé mercredi. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la quinzaine de personnes toujours portées disparues. Ce bateau en bois de transport de marchandises n'était pas autorisé à embarquer des passagers, ont affirmé les autorités maritimes. Selon les premiers éléments de l'enquête, le moteur aurait eu un problème technique, a expliqué l'agence portuaire maritime et fluviale. Le bateau s'est retrouvé à la merci des vagues et s'est échoué sur un récif. 25 corps ont été repêchés ce matin aux abords de l'île Sainte-Marie, probablement à cause des courants marins. Ce qui porte le total des morts à 64, a confirmé à l'AFP le général de la gendarmerie.
Lundi soir, un hélicoptère parti de la capitale Antananarivo pour se rendre sur la zone du naufrage, s'est écrasé en mer avec à son bord le secrétaire d'État à la gendarmerie, Serge Guélé. 2 personnes sont toujours portées disparues après le crash. Nouveau drame au large de la Grèce. Des dizaines de migrants ont été portés disparus non loin de l'île de Folegandros après le naufrage de leur canot. Une opération de sauvetage a été lancée, le point avec Eddie Isango.
Selon les gardes-côtes, 12 personnes ont pu être secourues, dont des enfants, et le corps d'une personne décédée a été récupéré. 4 navires, 2 hélicoptères de la marine et de l'armée de l'air, un appareil militaire de transport, 5 navires de passage et 3 navires privés participent aux opérations de secours, toujours selon les gardes-côtes. L'opération de secours a été lancée mardi soir après qu'une alerte a été donnée sur un canot transportant des migrants qui avait commencé à prendre de l'eau au sud des îles Cyclades. Les personnes qui ont pu être secourues, des Irakiens, des Syriens et des Égyptiens, ont été hospitalisées par précaution. La Grèce avait été la principale porte d'entrée par laquelle 1 million de demandeurs d'asile environ, principalement des Syriens, des Irakiens et des Afghans, étaient arrivés en Europe en 2015. La situation en Afghanistan a fait redouter l'arrivée d'une nouvelle vague des migrants. Selon les estimations de l'ONU, quelques 96 000 réfugiés et demandeurs d'asile se trouvent sur les territoires grecs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les premières discussions Russie-États-Unis et Russie-OTAN sur les garanties de sécurité réclamées par Moscou sur fond de crise autour de l'Ukraine sont attendues en janvier, a dit mercredi le chef de la diplomatie russe. Il a été convenu qu'au tout début de l'année prochaine, un contact bilatéral entre négociateurs russes et américains aura lieu. Un premier round, a déclaré Sergueï Lavrov dans une interview à la chaîne de télévision russe RT. La secrétaire d'État adjointe américaine chargée de l'Europe, Karen Donfried, avait déjà dit mardi s'attendre à ce que le dialogue au sujet de l'Ukraine et de la sécurité en Europe commence en janvier, tout en prévenant Moscou que certaines de ses exigences étaient inacceptables.
Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré mercredi le conseiller américain à la sécurité nationale de Jack Sullivan. Monsieur Bennett a affirmé que les négociations à Vienne sur le nucléaire iranien avaient de profondes répercussions pour la sécurité de l'État hébreu et du Moyen-Orient pour les années à venir. C'est pourquoi cette réunion arrive à point nommé, a-t-il déclaré mercredi selon un communiqué de son bureau. Le conseiller américain arrivé en Israël mardi soir a lui estimé qu'à un moment critique pour nos deux pays sur un ensemble de questions sécuritaires majeures, il est important de s'asseoir ensemble et de développer une stratégie commune, d'après le communiqué israélien. Le président français Emmanuel Macron a indiqué très clairement mercredi que les échéances démocratiques seront maintenues, a rapporté le porte-parole du gouvernement à moins de 4 mois de la présidentielle et en pleine 5e vague d'épidémie de Covid-19. Il en va de la vie démocratique de notre pays, a souligné le porte-parole Gabriel Attal lors du compte rendu du Conseil des ministres. Il a réaffirmé qu'aucun projet de report de la présidentielle d'avril n'est ni sur la table, ni en dessous de la table, ni dans le placard à côté de la table. Des élections législatives sont aussi prévues en juin 2022. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
Le Mali devrait être le plus grand producteur de coton en Afrique pour la campagne 2021-2022, selon un rapport du département américain de l'agriculture. Selon ce rapport, le pays a semé du coton sur une superficie record de 795 000 hectares, une hausse de 630 000 hectares par rapport à l'année dernière. Les recettes provenant des exportations d'hydrocarbures de l'Algérie ont augmenté de 57% de septembre 2020 à septembre 2021 en raison de la hausse des prix du pétrole, a indiqué mardi le gouverneur de la Banque d'Algérie. La rente pétrolière représente plus de 90% des recettes extérieures du pays. La firme italienne MPS a produit entre 2016 et 2021 plus de 4000 pièces non conformes destinées à l'avionneur américain Boeing selon un rapport préliminaire rédigé par des procureurs italiens. Les enquêteurs italiens cherchent à déterminer si les pièces défectueuses peuvent menacer la sécurité aérienne des appareils.
Sans tarder, nous passons à votre page sport avec Élisée Ungpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir à tous. Football avec la Super Coupe d'Afrique des clubs. Le Raja de Casablanca affronte Al Ahly du Caire à Doha au Qatar. Ça fera la 4e fois que le pays abrite cette compétition entre le vainqueur de la Coupe de la Confédération et celui de la Ligue des Champions. Les Égyptiens qui avaient remporté la dernière édition vont ainsi défendre le titre face aux Marocains. Ce classique des rencontres interclubs africains s'annonce palpitant. Les Aigles Verts avaient battu en finale de la Coupe CAF la JS Kabylie alors que les Égyptiens avaient surclassé le club sud-africain de Kaizer Chiefs. Le coup d'envoi du match qui est prévu tout à l'heure à partir de 19h temps universel verra la présence du président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe. Le patron du foot africain avant de se rendre à Doha est passé d'abord par le Cameroun pour obtenir des garanties sur le protocole sanitaire publié la semaine dernière et le feuilleton suspense a pris fin hier. La Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu malgré les pressions des clubs européens, malgré l'insistance de la FIFA et malgré la pandémie. La 33e édition de cette compétition va bien démarrer l'an prochain. Le président de la CAF l'a confirmé ce mardi après être entretenu avec le président camerounais Paul Biya. Menacé, la CAN se tiendra même si le protocole sanitaire a dû être renforcé. Vaccination obligatoire notamment, un engagement non négociable dès le 9 janvier prochain pour le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso. Et les pré-listes commencent par tomber, celle de l'Égypte par exemple. 40 joueurs sont convoqués par Carlos Queiroz sans Tarek Ahmed, le milieu de terrain de Zamalek, mais avec Salah ou encore Mahmoud Hassan dit Trezeguet. Au Cameroun, les Pharaons affronteront le Soudan, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Les Super Eagles 2015 pourront eux aussi compter sur leur attaquant vedette Victor Osimhen. Opéré le 23 novembre dernier après avoir subi de multiples fractures au visage suite à un choc en championnat, l'attaquant de Naples a repris un entraînement adapté en début de mois. Alors qu'une indisponibilité de 3 mois était invoquée au départ, l'international nigérien a lui-même annoncé qu'il sera finalement disponible pour la CAN du côté du Sénégal. Le sélectionneur Aliou Cissé fera face à la presse ce vendredi à l'hôtel Goodred pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour le tournoi qui démarre le 9 janvier. Après, les Lions de la Teranga s'envoleront pour Kigali au Rwanda pour un stage de quelques jours marqué par un match amical contre les Amavubi. Les coéquipiers de Sadio Mané sont logés dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi.
C'était les sports de Élisée Onkpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités sont désormais assurées sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations dans le pays à partir du 9 janvier prochain. Le président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a donné les dernières assurances hier à l'issue d'une audience avec le président camerounais Paul Biya. Du fait de la pandémie du Covid-19, la prochaine CAN va se disputer sous un protocole sanitaire très strict. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Les Camerounais avaient les oreilles tournées tout au long de la journée de mardi vers le palais présidentiel. La tension a baissé d'un cran lorsqu'au terme d'une audience de plus d'une heure et 30 minutes, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, fait l'annonce tant attendue.
Very good work has been done to make sure that we host an AFCON next year in Cameroon that will make the people of Cameroon proud and that will make the people of Africa proud. And the plan was today to focus more on Omicron. So we have said nobody will be allowed into the stadium without a PCR test because we have to protect those spectators who will be there. And of course there's a concern that there'll be lots of fake tests going around. We are dealing with those issues because I will be getting a report after the AFCON. And we have to have confidence and believe in ourselves that we can host a very successful AFCON 2021 in Cameroon.
Par cette annonce, le comité local d'organisation de la CAN se dit satisfait d'avoir relevé le défi de doter le Cameroun d'infrastructures modernes pour cette compétition. Narcisse Mouelekombi, ministre des Sports.
Elles sont toutes là, le complexe sportif de l'Olémé, le stade omnisports Amadou-Aïdjo, le complexe sportif de Jacoma, le stade omnisports de Roundé à Dia, le stade omnisports de Pouekon, et le stade omnisports de Guémé avec leurs annexes et tous les autres stades d'entraînement fin prêt pour la compétition.
Pour satisfaire au protocole sanitaire de la CAF pendant la CAN et faire face aux variants Omicron, le ministère de la Santé publique a lancé depuis le 20 décembre une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
Nous avons eu l'arrivée de 152 000 doses de Pfizer. Nous allons continuer à renforcer la communication. Nous savons qu'au regard des conditions édictées par la CAF pour l'entrée au stade, à la dernière minute, il y aura des Camerounais qui voudront bien se faire vacciner.
Le président de la CAF a par ailleurs réitéré que les internationaux africains vont participer à la CAN et mentionné que les conditions de leur libération ne dépendent pas d'une association des clubs, mais des règles dictées par la FIFA. Le public sportif est pour sa part remonté contre une CAN sans les vedettes du football africain.
Oh ben, il y a des vaccins, il y a des mesures. Déjà que chez eux en Europe, là-bas, on voit les stades sont déjà pleins. Pourquoi refuser donc que les joueurs viennent jouer ici en Afrique? C'est à tort. Pour moi, c'est à tort.
Je pense plutôt qu'ils sont jaloux de la CAN qui doit se dérouler au Cameroun en janvier 2021. Surtout avec Samuel Eto'o comme président d'Africa Foot aujourd'hui, je dis que c'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin de tous ces stars mondiales chez nous au Cameroun.
Le pays hôte ouvre le bal de la compétition le 9 janvier face au Burkina Faso au stade d'Olembe, nouvellement construit dans la banlieue de la capitale. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VO Afrique.
Alors que les relations entre Bamako et ses partenaires européens, notamment la France, font débat, la mission de formation de l'Union européenne au Mali change de commandement. C'est le général autrichien Christian Reiner qui prend les rênes de cette force, au moment où Paris poursuit la réorganisation de sa présence militaire dans le Sahel. Mais pour la mission européenne, le Mali reste une priorité. Le point avec Abdelrahman Dia.
La mission européenne de formation au Mali est composée d'un millier de soldats de 26 pays. Son rôle, appuyer l'armée malienne en outillant ses hommes de compétences nécessaires pour faire face à la menace djihadiste. Le général de brigade Joshen Dower, commandant sortant de la mission.
Le plus important, c'est pour la mission, ce sont les besoins du Mali, des forces maliennes. Et je pense, j'ai déjà dit il y a 6 mois, il faut écouter et entendre. Et après, en coopération avec les forces maliennes, de trouver une bonne approche, un bon entraînement. Et je pense aussi que pendant les derniers 6 mois, on a fait vraiment un progrès pour le futur du Mali.
Le nouveau patron de la force, le général de brigade autrichien Christian Reiner, promet de s'engager dans le respect de la volonté des Maliens.
C'est un grand honneur pour moi de servir dans cette mission. Et je ferai preuve d'un grand respect pour les peuples maliens et les soldats maliens. La mission est très essentielle.
La force européenne annonce qu'elle va étendre sa formation à d'autres pays du Sahel, comme le Burkina Faso et le Niger, mais que le Mali reste au cœur de ses priorités. Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'Union européenne.
Nous travaillons au profit de la force conjointe du G5, nous faisons de l'entraînement et nous allons également leur délivrer de l'équipement. Dans ce cadre-là, nous avons des pays prioritaires en dehors du Mali. Hein, je tiens à dire que le Mali reste notre première priorité, sans aucun doute. Nous avons commencé à développer quelques actions de formation et d'entraînement au Burkina Faso et nous allons aussi démarrer des actions similaires au Niger.
Pendant ce temps, le Mali va bientôt recevoir l'appui d'un millier de soldats tchadiens supplémentaires au sein de la mission des Nations Unies dans ce pays. Une annonce de Bamako qui survient alors que la réorganisation de la présence militaire française est en cours avec la fin programmée de l'opération Barkhane.
Des informations pertinentes et fiables. C'est VOA Afrique au Mali. Musique et actualité pour tous. Sur 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 Tombouctou.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden appelle les Américains à ne pas paniquer face aux variants Omicron du coronavirus, mais exhorte les non-vaccinés à se faire vacciner. Hier, il a dévoilé un nouveau plan en 3 volets pour lutter contre l'augmentation des cas de COVID-19 dans le pays. Compte rendu d'Anita Powell de la VOA, récit signé Jacques Aristide.
Pour le locataire de la Maison Blanche, le combat contre la propagation rapide du variant Omicron s'inscrit sur 3 fronts. Son administration va offrir des moyens supplémentaires aux hôpitaux, un demi-milliard de tests gratuits aux Américains et va élargir l'accès aux vaccins. Le président Biden demande aux vaccinés de ne pas paniquer.
Si vous n'êtes pas complètement vacciné, vous avez de bonnes raisons de vous inquiéter. Vous courez un risque élevé de tomber malade. Si vous tombez malade, vous risquez de transmettre la maladie à d'autres, y compris à vos amis et à votre famille. Les personnes non vaccinées ont un risque significativement plus élevé de se retrouver à l'hôpital ou même de mourir. Presque toutes les personnes décédées du COVID-19 au cours des derniers mois n'ont pas été vaccinées. Si vous faites partie de la majorité des Américains qui sont complètement vaccinés, et surtout si vous avez reçu la dose de rappel, ce troisième vaccin, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de raisons de vous inquiéter.
Environ 40% des Américains ne sont pas du tout vaccinés. Joe Biden reconnaît que persuader les récalcitrants demeure un défi à relever pour son administration.
Look,
Les non-vaccinés sont responsables de leurs propres choix. Ces choix ont été alimentés par une dangereuse désinformation sur les chaînes câblées et sur les réseaux sociaux. Vous savez que ces entreprises et personnalités gagnent de l'argent en colportant des mensonges et en disséminant de la désinformation qui peut tuer leurs propres clients et leurs propres partisans. C'est mauvais. C'est immoral. J'appelle les pourvoyeurs de ces mensonges et de cette désinformation à arrêter cela. Arrêtez maintenant.
Un improbable allié pro-vaccin a émergé, l'ancien président Donald Trump. Il a récemment admis avoir reçu une dose de rappel et avoir été hué par certains de ses partisans.
C'est peut-être l'une des rares choses sur lesquelles lui et moi sommes d'accord. Les personnes qui reçoivent des injections de rappel sont hautement protégées. Rejoignez-les, rejoignez-nous.
Les critiques se disent toutefois frustrées face à une telle main tendue aux Américains pour la dose de rappel, alors que beaucoup d'habitants ailleurs dans le monde n'ont même pas encore eu accès à la première. L'ONG One, qui milite pour de meilleures politiques de santé, est d'avis que vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année est un objectif impossible à atteindre. Elle ajoute qu'il va falloir plus d'une décennie pour les pays à revenus faibles pour arriver au niveau de vaccination réalisé par les pays à revenus élevés. Tom Hart de l'ONG One via Zoom.
Nous ne gagnons absolument pas la guerre mondiale contre la pandémie, comme en témoigne Omicron. Mais bien sûr, Delta nous l'avait déjà montré. Bref, le virus, depuis le début, le manque de leadership mondial, le manque de coordination entre les pays, le mois d'abord de chaque chef de gouvernement au cours des premières années de cette pandémie signifie qu'elle dure plus longtemps au prix de plus de vies et de plus de moyens de subsistance. Ce qu'il faut faire est très clair. Une stratégie uniquement nationale ne fonctionnera pas.
C'est une autre critique faite aux pays riches. Le président Biden a défendu la décision américaine de stocker des équipements de protection et des ventilateurs nécessaires d'après lui pour parer à toute éventualité dans les hôpitaux. Le chef de l'exécutif américain a également indiqué qu'il envisageait de lever les restrictions de voyage pesant sur 8 pays africains.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. Eric Mandakidza a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.
Bye-bye.